Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Je vous propose une balade cachée dans le Montparnasse secret, à l'ombre des vignes vierges. Quelques ateliers d'artistes sont toujours là. Et tout d'un coup, vous pouvez apercevoir un musée, pour ceux qui ne connaissent pas, le musée Bourdelle, qui fait sa réouverture. Il a fait sa réouverture cette semaine, ouvert depuis mercredi dernier. Après quelques mois de travaux, bonsoir Ophélie Ferlier-Bois.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de ce musée Bourdelle. Alors, c'est vrai que si je suis un Chinois ou un Américain ou je sais pas quelle autre nationalité qui parcourt en basket les rues parisiennes, je vais peut-être d'abord aller au musée d'Orsay, puis au Louvre, puis éventuellement, si j'aime vraiment la sculpture, au musée Rodin. Ce musée Bourdelle, on ne le connaît pas très bien. C'est vraiment dommage parce que c'est d'abord, et je le disais, un lieu. C'est le Paris secret, c'est le Montparnasse des années 1860-1880.
Oui, c'est vraiment une petite pépite en fait, le musée Bourdelle. Déjà, c'est un musée qui est organisé autour de jardins, ce qui est quand même relativement rare. Et puis, c'est vraiment un endroit où on peut sentir la création à l'œuvre en fait. Si on veut vraiment se replonger justement dans ce Montparnasse de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est le lieu idéal. On a à la fois l'ambiance des ateliers préservés en l'état, dans l'atelier de peinture, dans l'atelier de sculpture. C'est des pièces dans lesquelles on n'a pas de cartel, dans lesquelles on imagine vraiment que le sculpteur peut entrer.
Alors, les cartels,
à tout moment.
C'est les petits cartons justement sur lesquels il y a le nom des œuvres avec la date, généralement le titre.
Exactement, les cartels, c'est l'élément, on va dire, premier de la muséographie.
Et pourquoi il n'y en a pas ?
Eh bien, il n'y en a pas dans ces pièces-là parce que justement, on veut garder l'ambiance. On veut avoir l'impression que le visiteur pousse la porte et il arrive chez l'artiste, chez le sculpteur, et l'impression que la création est vraiment encore à l'œuvre. En revanche, on a refait tout le parcours des collections et là, on dresse vraiment un panorama de la vie et de l'œuvre de Bourdelle dans laquelle on apporte de nombreux éléments d'explication.
Alors, petite réminiscence pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, connaissent mal Antoine Bourdelle. On est dans l'époque de Rodin, de Camille Claudel, d'autres. Qui est-il ? Il a une femme qui s'appelle Cléopâtre, ça c'est quand même génial.
Oui, c'est pas fréquent.
C'est pas fréquent.
Antoine Bourdelle, c'est l'un des trois grands sculpteurs du début du XXe siècle. Il y a Rodin qui domine tout le monde, et puis il y a deux autres sculpteurs un peu moins connus, Mayol et Bourdelle. Mmh. Voilà, ce sont vraiment les trois grands sculpteurs. De son temps, il était reconnu comme tel.
Et Germaine Richier et Robert Couturier
ça,
aussi.
Ça, c'est la génération d'après.
C'est plus tard. Ouais.
Voilà. En fait, si vous voulez, Rodin, il est né en 1840. Ensuite viennent la même année Mayol et Bourdelle, né en 1861. Et dans les générations que vous citez, Germaine Richier, etc., on est encore plus vers la fin du siècle.
Et on peut rajouter Giacometti pour
exactement.
La fin du siècle.
Voilà. Et d'ailleurs, Germaine Richier et Giacometti ont été les élèves de Bourdelle.
Ouais. Et donc, Antoine Bourdelle, est-ce qu'il a une spécificité ?
Sa grande spécificité, c'est d'aborder la sculpture par la construction. C'est quelqu'un qui a un sens très développé de la construction, de la structure, de l'effet d'ensemble, au prix d'une simplification formelle. Et puis, c'est le grand sculpteur du monumental, voire du colossal. Dans le musée, vous pouvez découvrir des œuvres de petite dimension, mais surtout des gigantesques sculptures, comme le monument au général Alvear, qui a été créé pour la ville de Buenos Aires en Argentine, où le monument est toujours.
Mais ça fait combien de mètres, ça ?
Mais c'est gigantesque. Ça fait, rien que le socle fait 12 mètres de haut, donc l'ensemble fait 20 mètres. Ouais. Vous voyez, c'est disproportionné. Alors, ce n'est pas Bartholdi, ce n'est pas la Statue de la Liberté, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait penser le monumental et qui est vraiment reconnu. On vient le chercher, vous voyez, d'Argentine jusqu'en France pour faire ce monument. Et puis, c'est quelqu'un qui est passionnant aussi parce qu'il a la volonté de faire renaître, revivre la Grèce antique. Ce n'est pas un hasard s'il rencontre Cléopâtre, qui est grecque, justement, sa future épouse. Et en fait, quand il la rencontre, il a l'impression de voir une grecque des temps antiques. Voilà, elle a une grande tunique. C'est elle qui s'habille comme ça.
Oui, elle s'habille comme
ça. Oui.
Puis et là, aussi, on est la en quelle année travail. Dans Paris des années
Alors là, quand il rencontre Cléopâtre, c'est en 1904.
Ouais.
On est au tout début du XXe siècle.
Oui, on peut se le permettre parce qu'il y a quand même des tenues parfois un peu...
Oui.
Dans cette belle époque qui sont assez rock'n'roll, on dirait aujourd'hui.
Oui, et puis c'est l'époque de la création de ce qu'on appelle la danse libre, avec notamment Isadora Duncan. Il y a vraiment un goût pour les habits à la grecque, on va dire, par ces grandes tuniques qui laissent vraiment le corps libre.
Il y a des influences de Bourdelle, on vient de les citer. Est-ce qu'il laisse un patrimoine culturel ? Est-ce que justement, vous parliez de ses élèves, qu'est-ce qu'il leur a transmis ?
Alors, c'était un professeur vraiment très apprécié. Il a notamment enseigné à l'Académie de la Grande Chaumière, juste à côté du cimetière du Montparnasse. Et il leur transmettait à la fois des éléments pour construire, créer vraiment de manière très technique une sculpture, mais aussi c'est quelqu'un qui les laissait évoluer stylistiquement et qui ne les dirigeait pas trop de ce point de vue-là. Donc, c'est aussi pour cela que c'était un maître apprécié. Et puis, comme il enseignait dans une académie libre, il avait aussi bien des élèves hommes que femmes, venant de tous les horizons de l'Europe et même jusqu'aux États-Unis. Par exemple, Angela Gregory, qui est une sculptrice américaine, a enseigné avec lui. Et donc, il a eu quand même plus de 500 élèves. Donc, il a vraiment pu essaimer. Et par exemple, pour parler de Germaine Richier, qui est vraiment à l'honneur cette année, notamment avec l'exposition du Centre Pompidou, c'est vraiment auprès de lui qu'elle a appris techniquement la sculpture. Et à ses débuts, dans certaines qualités plastiques de ses œuvres, on sent qu'elle vient de Bourdelle.
Parce que Bourdelle meurt en quelle année ?
En 1929.
En 1929. Oui. Donc voilà, on est dans cette France des années 30 qui d'ailleurs connaît également architecturalement plein de changements avec Malet Stevens, avec ce style comme ça. Donc c'est d'ailleurs l'après Malet Stevens, je me corrige, parce que ça c'est un peu antérieur. Alors on disait que c'était un lieu qu'il fallait rénover, hein, c'est ça, parce que ça commençait à devenir dangereux tout simplement.
Voilà, donc il faut savoir que le musée Bourdelle est dans une ancienne cité d'artistes du Montparnasse de la fin du 19e siècle. Et que le bâtiment.
Donc il reste quelques vestiges avec des ateliers d'artistes un peu dans ce quartier de la rue Falguière, de la rue Bourdelle, voilà.
Oui, tout à fait, mais en fait assez peu de ces années-là, parce que le bâtiment le plus ancien date de 1878. Ce qui reste, c'est vraiment des bâtiments qui datent au moins d'une dizaine d'années plus tard. Mmh. Donc là, en plus, c'est vraiment un témoin relativement rare, construit de manière très légère, ce qu'on appelle à pans de bois, c'est les colombages, remplis de briques. Et en fait, c'était des bâtiments à usage locatif, vraiment extrêmement légers, qui étaient détruits.
Jamais on n'aurait dit « ça va durer dans le temps ».
Non, non. D'ailleurs, ouais. c'était pas du tout la volonté. Et donc, le propriétaire de la parcelle, qui était un menuisier, décide de construire après... l'incendie de sa menuiserie, des ateliers pour les artistes. Et ça marche éminemment bien, à tel point qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont construits successivement. Donc notre bâtiment le plus ancien avait d'une part des fondations très légères, une structure légère, et en plus, c'était sur des carrières. Donc tout cela faisait que le bâtiment bougeait énormément. On le voyait bien, la façade se bombait, etc. Et donc il fallait agir. Et tout l'enjeu des travaux, ça a été vraiment de garder l'âme du bâtiment en apportant, et c'est l'entreprise Lefebvre qui a travaillé avec nous, une solution technique. Ils nous ont proposé une cage en profilé métallique qui maintenant, à l'intérieur du bâtiment, le soutient entièrement.
Oui, puisque vous dites qu'on a amélioré la performance thermique également du bâtiment.
Oui, on a amélioré l'isolation.
C'est-à-dire qu'avant, on était en doudoune avec un casque lourd et maintenant, on peut balader...
Ça.
Un peu tranquillement.
Il faisait extrêmement humide, donc on a fait une barrière climatique au niveau du rez-de-chaussée, on a amélioré l'isolation dans les combles. En revanche, on n'a pas remplacé les grandes verrières orientées au nord qui sont emblématiques de ces ateliers d'artistes.
Et oui, toujours au nord, hein, remarquera.
Toujours. Lumière égale.
Quand vous regardez ces immeubles parisiens qui sont aux portes, hein, aux portes de Paris, souvent tout en haut, il y a un atelier d'artistes, comme cette espèce de baie vitrée. Alors, il y a des grandes opérations immobilières sur ces ateliers d'artistes qui n'étaient pas du tout destinés à ça au départ.
Ça.
Et ils sont toujours, effectivement, orientés au nord. La salle des techniques ?
Alors, la salle des techniques, c'est vraiment une salle qu'on a remaniée encore une fois parce que le musée Bourdelle a été l'un des premiers musées à proposer une telle salle. Maintenant, l'offre est un peu plus large, notamment au musée Rodin, au musée de la piscine de Roubaix. Mais là, l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose de très interactif avec des dispositifs aussi numériques et pour différentes palettes d'âge. Donc, on a une offre maintenant extrêmement riche. On a une table centrale où on explique à travers une œuvre déclinée en plusieurs matériaux. Ce sont toutes des œuvres originales de Bourdelle. À partir d'une petite vierge à l'offrande, on a une terre, un plâtre, un autre plâtre qui a servi à la taille, un autre plâtre qui a servi à la fonte du bronze. Et on explique cela de manière extrêmement simple, avec à côté les outils de Bourdelle et une petite vidéo qui explique en moins de 5 minutes le principe de chaque étape. Et puis, on a un grand mur au fond dans lequel on est invité à tout manipuler. Tout est touchable, manipulable. Et on essaye d'appréhender la sculpture sous différents angles. Par exemple, on est invité à écouter la description d'une œuvre qu'on ne découvre qu'ensuite.
Donc c'est bien pour les enfants aussi.
Ah oui, bien sûr. Et puis on a un coin aussi pour les tout-petits, on a des jeux pour les tout-petits et aussi des puzzles qui sont à disposition, vraiment chacun est libre de manipuler. Et enfin des petits coins de consultation multimédia dans lesquels on a créé des contenus totalement inédits autour justement de comment on fait une sculpture monumentale, comment se diffuse un chef-d'œuvre à partir d'Héraclès Archer, ou alors comment un monument sert de réservoir de forme.
Et on a profité de cette réouverture pour faire une exposition inaugurale à Philippe Cogné. Alors là, je sèche totalement. Philippe Cogné, qui est-il?
Philippe Cogné, il est né en 1957. C'est un peintre. Et alors, il a aussi fait un peu de sculpture. Et d'ailleurs, on montre quelques-unes de ses sculptures. C'est quelqu'un qui a enseigné à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui est reconnu. Son style, ce qu'on connaît surtout de Philippe Cogné, ce sont ses peintures à la cire dont l'effet est extrêmement tremblé.
D'accord.
On connaît, par exemple, on a souvent dans l'œil son frigo, parce qu'à un moment donné, il aimait beaucoup peindre des objets du quotidien. Et cette peinture à la cire, elle est vraiment tout à fait particulière. Parce que, donc,
c'est le Warhol français, quoi. C'est les canettes de soupe à la tomate.
Bah, c'est un peu ça, à un moment donné, en tout cas, parce que notamment, on expose un grand supermarché, un grand triptyque de supermarché.
Des rayonnages.
Voilà, dans lequel il s'intéresse beaucoup au rayonnage, il s'intéresse beaucoup à la multiplication, à la répétition.
Et tout ça, c'est donc à voir au musée Bourdelle qui vient de rouvrir. Merci beaucoup, Ophélie Ferlier-Bois. Voilà, si votre train à Montparnasse a quelques minutes de retard, c'est vraiment juste à côté, donc profitez-en.
Et les collections permanentes sont gratuites.
Merci encore, Ophélie Ferlier-Bois. Et donc, courez au musée Bourdelle, c'est absolument magnifique, ces sculptures de l'un des sculpteurs les plus emblématiques du XXe siècle, en même temps que Camille Claudel et Auguste Rodin. Rien à voir, la Formule 1, ça vient de se terminer à Jeddah. Christopher Fioc vous donnera les précisions tout à l'heure dans le journal de 20h. Sachez que c'est Sergio Pérez sur l'autre Red Bull qui remporte ce Grand Prix du lundi au jeudi à 8h45 dans Europe 1 Matin. Vous avez rendez-vous avec le Club de la Presse autour de Dimitri Pavlenko. Les éditorialistes débattent de l'actualité. Demain matin, c'est Géraldine Vosner, journaliste au Point, et Charlotte Dornelas à Valeurs Actuelles qui vous donne rendez-vous.